Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les problèmes trouvés dans le monde en y apportant un regard biblique.
La pauvreté et la prospérité. Voici le thème qu'Yann et son invité Jean-Luc vont à présent aborder.
La dernière fois, lors de nos discussions sur la prospérité et la pauvreté, nous avons appris que Dieu est bon. C'est pourquoi il a placé le monde naturel à la disposition des hommes afin de pourvoir amplement à leurs besoins. Cependant, aujourd'hui, nous constatons une sombre réalité. Il y a d'une part ceux qui prospèrent et d'autre part ceux qui, nombreux, se trouvent démunis, vivant dans des conditions de pauvreté déplorables. Jean-Luc, comment expliquer cela?
La racine de ce problème est complexe. Toutefois, pour commencer, je voudrais affirmer que les causes sont essentiellement liées au comportement des hommes. Il est important de ne pas remettre en doute la bonté de Dieu, qui veille aux siens et pourvoit à leurs besoins.
Et pourtant, pour ceux qui s'en sortent difficilement sur le plan matériel, pour ceux qui ont faim et soif, comment ne pas se demander pourquoi ils en sont arrivés là? Ou pourquoi Dieu semble ne pas faire grand-chose?
La présence de la souffrance dans le monde, vécue à travers la pauvreté, suscite bien sûr beaucoup d'interrogations. Et nous devons avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent. Toutefois, nous ne devons pas oublier que Dieu lui-même a créé le monde et que ce monde, à l'origine, était bon. Si aujourd'hui, le mal existe, c'est parce que les premiers hommes ont désobéi à Dieu. Et c'est parce qu'aujourd'hui encore, les hommes continuent de l'attrister en ne marchant pas dans ses voies. Mais Dieu agit. Il intervient en faveur des hommes. En la personne de Jésus-Christ, il leur permet de connaître son salut et à ceux qui croient en lui, il donne la vie éternelle. Et nous pouvons affirmer que dans la vie éternelle, la pauvreté ne se trouvera plus. Toutefois, aujourd'hui, nous attendons l'accomplissement de ces promesses, certains que Dieu tiendra sa parole.
Mais revenons aux causes de la pauvreté. Vous avez affirmé tout à l'heure que la faute incombait essentiellement aux hommes. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point?
D'abord, je le répète, les causes de la pauvreté sont complexes. Cependant, la Bible présente au moins deux comportements susceptibles de créer ou d'aggraver l'écart entre les gens excessivement riches et ceux qui sont démunis de tout. Elle parle, par exemple, de la paresse et de la convoitise.
Parlons d'abord de la paresse.
Pour cela, écoutons la lecture d'un verset du livre biblique des Proverbes. « Et toi, paresseux, combien de temps veux-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste m'assoupir, rien qu'un peu me croiser les mains et rester couché un instant. » Et écoutons maintenant où l'auteur des Proverbes veut en venir et quel peut être le résultat d'une telle attitude. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard.
Oui, je vois que les Proverbes établissent un lien de cause à effet entre la paresse et la pauvreté.
Tout à fait. Lorsque Dieu a créé le monde, il a demandé à Adam, le premier homme, de prendre bien soin de la terre et de la cultiver. La paresse est donc un péché, car par elle, les hommes s'opposent à la volonté de Dieu qui désire que les hommes travaillent. Le paresseux dira « Je ne veux pas travailler ou j'en ai pas envie. » Or, celui qui ne sème pas ses champs n'en verra jamais la récolte, ni ne pourra subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. De même, celui qui ne cherche pas d'emploi ne percevra jamais de salaire, ni ne pourvoira à ses besoins.
Les dangers de la paresse sont donc évidents. La paresse s'oppose à la volonté de Dieu et conduit à la pauvreté. Toutefois, il existe bien de chômeurs dans le monde aujourd'hui. Peut-on dire qu'ils sont comme le paresseux décrit dans les Proverbes?
Non, pas du tout. Nombreux aujourd'hui sont ceux qui désirent travailler, mais qui malheureusement ne parviennent pas à trouver d'emploi pour des raisons économiques ou autres. Et nous ne devons pas les accabler davantage. Les avertissements dont je parle s'adressent à ceux qui pourraient travailler, mais refusent de le faire.
Parlons à présent de la convoitise. C'est une attitude condamnée par le 10e commandement donné à Moïse, me semble-t-il.
Vous avez raison. Rappelons les paroles de ce commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne.
Mais Jean-Luc, dites-nous ce que c'est la convoitise et comment elle peut engendrer la pauvreté.
Les hommes et les femmes sont égoïstes et ils ont tendance à désirer toujours plus. Ils désirent gagner plus d'argent, ils veulent acquérir plus de biens. Et certains en arrivent à un point où pour posséder davantage, il leur faut usurper, voler ce qui appartient à un autre, jusqu'à le priver de ce qui lui revenait. La convoitise est donc le désir de posséder ce qui appartient à un autre. Et ce désir peut pousser certains au passage à l'acte, priver d'autres d'un droit et causer une injustice.
Pouvez-vous citer un exemple dans la Bible pour illustrer ce que vous dites ?
Oui, nous avons appris la dernière fois que Dieu voulait que chaque famille en Israël ait ses propres terres afin qu'elle puisse subvenir à ses propres besoins. Toutefois, certains voulaient, par convoitise, s'enrichir et le seul moyen d'y parvenir était d'obtenir, de façon illicite, les terres d'autres familles. Les prophètes dénoncèrent alors ces hommes puissants qui s'étaient enrichis injustement au détriment des autres. Car ceux qui acquéraient de nouvelles terres s'enrichissaient, mais ils appauvrissaient ceux qui en étaient privés. La racine du problème ici est à la convoitise, désir qui rend insatisfait celui qui ne se contente jamais de ce que Dieu lui donne.
Et comment la convoitise se manifeste-t-elle aujourd'hui ?
Elle se manifeste à travers les injustices, la corruption, l'oppression et l'exploitation, dont les conséquences sont souvent lourdes à porter pour ceux qui, impuissants, doivent en subir les méfaits.
Mais pour conclure aujourd'hui, avez-vous des paroles de consolation et d'encouragement à apporter à ces personnes qui souffrent à cause des injustices ?
Je pense au récit d'Agar, la servante d'Abraham et Sarah. À un moment donné, elle fut abandonnée dans le désert injustement, avec son enfant. Elle s'y retrouva seule et démunie de tout. Mais Dieu est intervenu. Il est venu à sa rencontre et il l'a secourue. Il fut pour elle un refuge et un appui, un secours dans la détresse. C'est pourquoi, de ce jour, Agar a appelé l'Éternel « Atta El Roi », ce qui signifie « Dieu voit ». Voilà notre consolation. Chers amis, quelle que soit votre situation, votre épreuve, Dieu voit, il vous voit. Il est conscient de votre besoin, il est le défenseur des victimes de l'injustice. Il est un bien sur lequel celui qui souffre peut s'appuyer. Dieu voit et il cherche par sa parole à convaincre les hommes de leur convoitise, à les persuader de changer, de mieux répartir les richesses. Dieu voit et le jour viendra où il fera régner la justice une fois pour toutes. En attendant ce jour, le retour du Seigneur Jésus, nous pouvons placer notre confiance en l'Éternel, sachant qu'il voit et qu'il veille sur les siens.
Nous remercions Jean-Luc pour ses paroles rassurantes. Nous pouvons nous sentir oubliés par les hommes, mais l'Éternel n'oublie jamais les siens.
Alors qu'avec Jean-Luc, nous discutons de la pauvreté matérielle, lors de nos méditations bibliques, nous allons parler de la pauvreté spirituelle. Après la lecture de Matthieu chapitre 5, verset 3, notre invité Pierre expliquera de quoi il s'agit.
Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient.
Est-il possible d'être à la fois pauvre et heureux ? Beaucoup aspirent à amasser des biens, à posséder des richesses, pensant par là même obtenir le bonheur. S'il est vrai que l'argent nous permet d'améliorer notre qualité de vie, il ne garantit pas pour autant le bonheur. Cependant, les paroles de Jésus nous étonnent, car selon lui, si nous réalisons notre pauvreté, nous pouvons alors nous réjouir. Jésus ne parle pas ici de la pauvreté matérielle, mais de la pauvreté spirituelle. Le mot grec, d'où a été traduit le terme « pauvre », évoque la position malheureuse d'un mendiant. On ne peut guère être plus démuni qu'un mendiant. Ceux qui vivent ainsi dépendent entièrement de la bienveillance des autres. Pourront-ils trouver de quoi se nourrir aujourd'hui ? Seulement si ceux qui les côtoient sont suffisamment généreux. Les mendiants ont perdu tout moyen de subsistance, toute possibilité de résoudre le problème. Jour après jour, ils doivent s'attendre à la miséricorde des passants. Se reconnaître pauvre spirituellement, c'est réaliser que devant Dieu nous sommes comme des mendiants. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas nous-mêmes résoudre nos problèmes spirituels. C'est reconnaître que nous devons regarder à Jésus, confiant dans sa miséricorde et de sa générosité. De quel problème spirituel s'agit-il ? Commençons par celui du péché, car chaque jour nous pratiquons le mal en pensée, en parole et en acte. Comment donc rétablir notre relation avec Dieu brisée par nos fautes ? Nous ne le pouvons pas, car toutes nos bonnes œuvres, tous nos actes de piété, comme le meilleur de nos efforts, ne pourront jamais annuler la gravité de nos fautes. Attristés par le mal que nous pratiquons, nous ne pouvons que regarder à Jésus afin de recevoir sa miséricorde, car sur la croix, il a payé la dette de nos péchés à notre place et il dispense son pardon à ceux qui, reconnaissant leur pauvreté spirituelle, le lui demandent. Que faire devant la réalité de la mort ? L'homme cherche à prolonger les jours de son existence, à repousser le moment fatidique de sa mort. Mais, avouons-le, tôt ou tard, nous mourrons tous. L'homme se sent impuissant devant cette tragédie. Mais Jésus, dans sa grâce, nous donne la promesse de vivre éternellement avec lui. Et cette assurance s'adresse à tous ceux qui s'attendent à lui, reconnaissant que sans la grâce du Seigneur, ils sont perdus. La situation d'un mendiant n'est pas enviable et beaucoup n'aiment pas l'idée de s'abaisser devant Dieu pour admettre le besoin de lui. Nous aimons penser que nous trouverons une solution à tous nos problèmes. Toutefois, cela est faux. L'homme ne peut pas tout faire et ne peut non plus tout résoudre. Quant au problème du mal, du péché et de la mort, nous devons mettre de côté notre orgueil et nous approcher de Jésus pour lui dire « Je ne peux rien, mais toi, tu peux tout. »
Nous louons le Seigneur Jésus, car il peut faire ce que nous sommes incapables d'accomplir.
Nous vous encourageons donc à mettre votre confiance en lui, car il est notre Sauveur admirable.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.